L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
En ce matin de novembre 1941, il tombe un insupportable petit crachin sur Washington. Le docteur Freeman relève le col de son paletot et presse le pas. Le ciel est gris, il est bas. Heureusement, l'hôpital n'est plus bien loin. Quand Freeman pousse la porte, il est ébloui par la lumière crue des néons. Et c'est pareil chaque matin. Mais aujourd'hui n'est pas tout à fait un jour comme les autres. Il a vu le nom de la patiente au planning. Il a même rencontré son père, un des hommes les plus riches des États-Unis. Il s'appelle Kennedy. La jeune femme est entrée à l'hôpital en toute discrétion. Elle se prénomme Rosemary. Elle a tout juste 23 ans. Sait-elle pourquoi elle est là? Lui a-t-on expliqué qu'elle allait être opérée? Comprend-elle pourquoi une infirmière s'approche avec une tondeuse et entreprend de lui raser la tête? À 23 ans, on aime se coiffer, se maquiller, s'habiller, être jolie et faire la fête. Que ressent Rosemary Kennedy quand elle voit les longues mèches de ses cheveux châtains tomber au sol? Elle est étendue sur une table, ses mains et ses pieds sont sanglés pour qu'elle ne puisse pas bouger. L'opération peut commencer. À la demande de son père, Rosemary Kennedy va être lobotomisée. Il est 7h45. Le docteur Freeman vient d'arriver. C'est l'heure H de mon histoire. Il y aura un avant et un après. Après ce jour gris de 1941, Rosemary sera littéralement effacée de la famille Kennedy. Elle n'apparaîtra plus sur aucune photo et plus personne ne prononcera jamais son prénom. Rosemary va devenir le secret le mieux gardé de la famille. Et pourtant, il y en eut des secrets chez les Kennedy. Des secrets et des tragédies. On pense évidemment à John JFK, le président assassiné à Dallas en 1963. Avant lui, il y eut son frère aîné, Joe, mort en opération durant la Seconde Guerre mondiale. Il était aviateur, parti bombarder une base allemande implantée, mais l'avion avait explosé avant d'atteindre son objectif. Juste après-guerre, il y eut aussi Kathleen, morte dans le crash de son petit avion pris dans un violent orage. Puis il y eut Robert, Bobby, le sénateur, candidat à l'investiture démocrate, tué par balle lors d'un meeting en 1968. Et ça a continué à la génération suivante. Deux des fils de Bobby sont morts dans la fleur de l'âge. David, overdose. Michael, accident de ski. Quelques années plus tard, c'était John, le fils du président, celui que l'on surnommait l'enfant chéri de l'Amérique. Le jour de l'enterrement de JFK aurait dû être un jour de fête chez les Kennedy. C'était l'anniversaire de John. Il avait 3 ans. Ce jour-là, à défaut de souffler sur ses bougies, le petit bonhomme en culotte courte a ému toute l'Amérique en faisant un salut militaire devant le cercueil de son père. John est décédé en 1999, victime d'un accident d'avion lui aussi, avec sa jeune épouse, Caroline. Ils avaient la trentaine et rêvait de devenir parent. Alors vous le voyez, chez les Kennedy, dynastie rime avec tragédie. Toutes ces tragédies, vous les connaissez. Elles ont fait la une des journaux et des illustrés du monde entier. Toutes, sauf une. Celle que les Kennedy ont préféré cacher. Celle de Rosemary. Une fille handicapée, imaginez. Impensable pour les Kennedy. Eux qui ont toujours voulu donner à l'Amérique l'image d'une famille idyllique. Alors, pour préserver cette image, ils ont choisi d'effacer Rosemary. Rosemary est la sœur cadette du futur président des États-Unis. John a 15 mois quand la petite fille voit le jour, à la fin de l'été 1918. La famille est installée au 83 Bill Street, dans la banlieue cossue de Boston. La mère, Rose Fitzgerald, n'est autre que la fille du maire de Boston. Le père, Joseph Kennedy, est un homme d'affaires prospère. Il a commencé sa carrière comme banquier, puis a réussi de beaux investissements immobiliers. C'est donc un jeune couple très en vue. Rosemary est leur troisième enfant. Ils en auront 9 au total. À sa naissance, Rose et Joseph sont déjà les heureux parents de deux petits garçons pleins de vie, Joe et John. L'arrivée de Rosemary les comble de bonheur. D'abord parce que c'est une petite fille, mais surtout parce qu'elle a l'air en pleine forme. Et il faut avouer qu'ils ont eu peur. Depuis quelque temps, une épidémie de grippe dévastatrice, la grippe espagnole, a envahi la planète. Boston est touchée de plein fouet. En ce mois de septembre 1918, plusieurs milliers de cas ont été diagnostiqués en ville. Les Kennedy sont heureux d'avoir pu se mettre à l'abri et d'être épargnés par la maladie. Afin de ne prendre aucun risque, Rose a choisi d'accoucher à la maison. Oh, elle est habituée. Elle avait déjà fait de même pour les premiers. L'aîné des fils, que l'on surnomme Joe, a été baptisé Joseph, comme son père. L'aîné des filles prendra donc le prénom de sa mère. Ce sera Rose, ou plutôt Rosemary. Mais ses grands frères ne tarderont pas à l'appeler Rosie. Oh, elle est tellement mignonne, cette petite Rosie. Comme Joe et John avant elle, la petite Rosemary est confiée aux bons soins des domestiques. Ah, il faut dire que Rose Kennedy tombe très vite enceinte de son quatrième enfant et surtout que des tensions apparaissent dans le couple. À l'aube des années 20, alors que la Première Guerre mondiale vient de prendre fin, les femmes rêvent d'émancipation. Et Rose rêve avec elle d'une vie plus moderne, où elle serait plus libre, plus autonome. Mais ce n'est pas du tout la vie que lui offre son mari, Joseph Kennedy. Alors que lui, de son côté, ne se prive pas de prendre de nombreuses libertés, notamment amoureuses. Rose n'en peut plus. Enceinte jusqu'aux yeux, elle décide de quitter le domicile familial pour retourner chez ses parents. L'escapade ne dure que quelques jours. Poussée par sa foi catholique, Rose reprend le chemin du bercail pour remplir son rôle d'épouse et de mère. Oh, elle n'est pourtant pas du genre à s'occuper des couches, des biberons et des bobos, non. Elle est d'ailleurs souvent absente. Quand la vie mondaine ne la retient pas à Boston, elle part volontiers pour de longs voyages, loin du brouhaha des enfants. Comme ses aînés, Rosemary grandit donc dans les jupes de la nurse et de la gouvernante. Sa mère se réserve toutefois la fessée et la pesée. La fessée, c'est juste quand les circonstances l'exigent. Par contre, la pesée est le rituel sacré du samedi matin. Joe, John, Rosemary défilent tour à tour sur la balance. Toute sa vie, Rose craindra que ses enfants ne prennent trop de poids. Mais à part surveiller l'aiguille qui oscille et noter consciencieusement le chiffre dans un petit carnet à spirale, quel intérêt Rose porte-t-elle à ses enfants ? Remarque-t-elle que Rosemary n'est pas très habile ? Bon, certes, elle est arrivée après deux grands frères particulièrement délurés. Alors, il lui faut trouver sa place dans cette fratrie. Mais une autre petite sœur est née depuis. Elle se prénomme Kathleen. Les deux filles ont 17 mois d'écart et, dans certains jeux, Kathleen, la cadette, semble bien plus dégourdie que Rosemary.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, dans leur H, je vous raconte l'histoire de Rosemary Kennedy, la petite sœur de JFK. Une petite fille différente à laquelle la vie ne va pas faire de cadeau. À 5 ans, Rosemary est inscrite au jardin d'enfants. C'est une année unique de sociabilisation avant d'accéder à l'école primaire. Très vite, les enseignantes se disent que la petite Rosemary est en retard sur les enfants de son âge. Elle est lente, elle manque de réactivité, de dextérité. Elle ne distingue même pas sa main gauche de sa main droite. Au bout de quelques mois, les parents de l'enfant sont convoqués à l'école. Les enseignantes sont un petit peu gênées. Elles ne savent pas trop par où commencer, surtout face à Monsieur et Madame Kennedy. C'est pas n'importe qui. Alors voilà, Rosemary est une petite fille souriante, charmante, mais elle souffre d'une légère déficience. Bon, la petite n'a pas encore 6 ans, ça ne portera pas à conséquence, songent sans doute les parents. Mais l'enseignante poursuit précautionneusement jusqu'à évoquer un léger retard mental. Rose et Joseph Kennedy sont abasourdis. Non, leur fille ne peut pas souffrir d'un retard mental, pas à eux. Ils se souviennent pourtant combien l'accouchement fut difficile. Ce jour-là, le médecin avait tardé à arriver. Une infirmière était au chevet de Rose, mais selon les règles en vigueur, elle était tenue d'attendre le médecin pour la naissance. Les règles en vigueur. Elles avaient évidemment été conçues par les médecins qui craignaient de ne pouvoir prétendre à leur honoraire s'ils n'étaient pas sur place au moment où le bébé pointait le bout du nez. Mais le médecin n'arrivait pas, alors que Rose était sur le point d'accoucher. Pendant de longues minutes, l'infirmière a contraint la jeune maman à garder les jambes serrées pour que l'enfant ne sorte pas. Puis, comme sa tête apparaissait malgré tout, elle a pressé sa main contre le crâne pour maintenir le bébé dans le vagin. Quand on repense à tout cela, évidemment, il est possible que le cerveau de la petite Rosemary ait manqué d'oxygène à la naissance. L'enseignante baisse les yeux. « Sorry, Mrs. Kennedy, mais nous ne pourrons pas accepter Rosemary en première primaire. Nous pouvons toutefois vous proposer de lui faire redoubler son année au jardin d'enfants. » Dans les semaines et les mois qui suivent, Rose Kennedy traîne sa fille chez les meilleurs spécialistes. Tous confirment ce que présentaient les enseignantes. Un léger retard mental. Impossible d'en déterminer la cause précise. L'hypothèse de l'accident à la naissance est plausible, mais ça peut tout aussi bien être un problème héréditaire. À l'époque, les personnes porteuses d'un handicap sont considérées comme des êtres inférieurs. Les théories eugénistes sont en vogue. N'oublions pas que l'eugénisme sera l'un des piliers du régime nazi. Dans les années 1930, l'Allemagne adoptera des lois permettant de stériliser, puis d'euthanasier les personnes handicapées, et notamment celles souffrant d'une déficience mentale. Oh, les États-Unis n'en sont pas là, bien sûr, mais en 1924, il n'y a pas de place pour le handicap. Il n'y a même pas de mots. On ne parle pas de maladie mentale ou de déficience intellectuelle. On parle de débile et d'idiot. À la campagne, ça passe encore. On a même une certaine tendresse pour l'idiot du village. Mais en ville, c'est plus compliqué. Il faut cacher ces individus aux yeux de la société. Surtout quand on s'appelle Kennedy et que l'on veut briller en société. Ni Rose, ni Joseph Kennedy ne veulent entendre que leur fille a un léger retard mental. Rose est dans le déni le plus total. Sa fille est sans doute un peu lente, un peu timide. Mais chaque enfant a son rythme, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Joseph, lui, est sous le choc. On peut comprendre. On peut comprendre la peine d'un père quand il apprend que son enfant est différent. Les doutes, les peurs, les questions sur l'avenir, mais c'est pas ça qui chagrine le père Kennedy. Non, ce qui le chagrine, ce qui l'inquiète, ce qui le met en rage, c'est que cette gamine risque de faire tache sur la photo de famille. S'il se sait que Rosemary a un problème mental, les Kennedy risquent d'être mis en marge de la bonne société. Or, Joseph Kennedy a de grands projets pour ses fils. L'un d'entre eux, probablement Joe, l'aîné, doit devenir président des États-Unis. Il en rêve depuis toujours et il les élève dans cette perspective depuis le jour de leur naissance. Alors pour cela, il faut donner l'image d'une famille parfaite, irréprochable, brillante, clinquante. La famille Kennedy se doit d'incarner le rêve américain. Joseph Kennedy bosse dur pour qu'il en soit ainsi, et voilà qu'on lui annonce que Rosemary souffre d'une déficience mentale. Non mais c'est impensable! Un enfant handicapé nuit-il à l'image d'une famille? Surtout si cette famille veut accéder au pouvoir. Non. Non, l'histoire l'a prouvé. Avec le général de Gaulle notamment, très attaché à sa benjamine, Anne, porteuse du syndrome de Down, ce que l'on appelle communément la trisomie 21. Anne mourra 20 ans dans les bras de son père. Plus près de nous, un autre président français, Jacques Chirac. Sa fille aînée, Laurence, a souffert d'une méningite qui lui a laissé de lourdes séquelles psychologiques. Mais les hommes de pouvoir sont d'abord des hommes. Et quand le rideau politique se baisse, ce sont aussi des pères. Joseph Kennedy ne conçoit cependant pas les choses ainsi. Est-ce son tempérament? Est-ce l'époque? Est-ce la société américaine et ses rêves de perfection? Le handicap de Rosemary a beau être très léger, Joseph ne supporte pas l'idée. Il ne supporte pas qu'elle soit moins vive et moins brillante que ses frères. Elle ne fera jamais Harvard, comme Joe, l'aîné que le père Kennedy a inscrit dans la prestigieuse université quelques jours à peine après sa naissance. Elle ne sera jamais diplômée de Stanford ou de Yale. Et alors ? La petite Rosemary redouble son année au jardin d'enfants, puis elle redouble sa première primaire. Ses parents quittent ensuite Boston pour New York, où Joseph Kennedy va accroître considérablement sa fortune, en manœuvrant avec habileté lors du fameux crash boursier de 1929. Rosemary a 9 ans, et ses parents ne veulent pas qu'elle soit considérée comme une enfant différente. Mais elle est toujours un peu lente. Elle écrit les lettres à l'envers, elle ne maîtrise ni l'orthographe ni la syntaxe. Elle a visiblement un problème de coordination des mouvements. Alors que ses frères adorent faire du canot, elle est incapable de ramer. On l'a inscrite à des cours de danse, mais elle s'en mêle les bras et les jambes. Et c'est pareil quand elle s'essaie au patin à glace. Les enseignants finissent par s'impatienter, d'autant que les parents Kennedy ne les préviennent jamais que leur fille a un souci. Les professeurs le découvrent en cours d'année. Rose et Joseph ne disent rien, car ils veulent que leur fille suive un cursus normal. Il faut que cet enfant tienne son rang, bon sang. Mais, année après année, ils sont obligés de la changer d'école. Rosemary doit chaque fois s'adapter. Elle le supporte de moins en moins bien. Son caractère s'assombrit, elle fait tantôt des crises de colère, tantôt des crises de mélancolie. Jusqu'en 1938. Cette année-là, Joseph Kennedy est nommé ambassadeur des États-Unis au Royaume-Uni. Le président Roosevelt lui avait déjà confié d'autres missions délicates qu'il avait assumées avec brio. Et cette ambassade est assurément délicate, alors que l'Europe résonne déjà des bruits de bottes du régime nazi. Joseph Kennedy ne pouvait rêver mieux que ce nouveau poste. Rosemary a tout juste 20 ans. Elle suit la famille à Londres et y termine ses études. Avec bonheur, car ses parents l'ont inscrite dans un établissement à la pédagogie innovante, l'Institut Montessori. On dit qu'elle y décroche un diplôme d'éducatrice. Alors est-ce vrai? Ou n'est-ce qu'un diplôme de complaisance? Eh bien, on ne sait pas exactement. Toujours est-il qu'une fois ses études terminées, Rosemary reste dans l'établissement pour assister les enseignantes du jardin d'enfants. Quand les bambins ont fini la sieste, elle leur lit son histoire préférée, Winnie l'ourson. Bon, ça c'est en journée. Mais en soirée, Rosemary Kennedy redevient la fille du très convoité ambassadeur des États-Unis. Quelques semaines après son arrivée à Londres, elle apparaît au bal des débutantes et obtient le privilège d'être présentée au roi George V et à son épouse, Marie. Normalement, ce privilège est réservé aux grandes familles de l'aristocratie britannique, mais il aurait été difficile de le refuser au tout nouvel ambassadeur. À peine arrivée à Londres, la fille Kennedy fait donc des envieux dans la bonne société britannique. Duchesse et comtesse guettent son arrivée à Buckingham Palace. Rosemary apparaît rayonnante, dans une robe signée de la maison Meline. Une robe blanche, parsemée de paillettes argentées, patiemment rebrodées une à une sur le tulle évanescent. Et pour illuminer son visage, Rose a coiffé sa fille d'un diadème serti de diamants. Rosemary s'avance, fait la révérence. Puis, elle profite de la soirée comme tous les jeunes gens invités. Elle paraît timide, réservée, c'est vrai. Mais personne ne soupçonne la moindre déficience mentale. Sur les photos de l'époque, Rosemary Kennedy est une jolie jeune femme. Plutôt grande, la tête haute, le regard droit. Avec les cheveux enroulés au niveau des tempes, une mise en plis curly, très à la mode dans les années 30. Depuis qu'elle est à Londres et qu'elle a trouvé sa place à l'Institut Montessori, Rosemary est dans la vie de tous les jours comme on l'a aperçue à Buckingham, souriante et rayonnante. Mais nous voilà en septembre 1939. La guerre éclate. Joseph Kennedy est plus indispensable que jamais dans son ambassade londonienne, mais il décide de faire rapatrier femmes et enfants au pays. Il en va de leur sécurité. Le couple a désormais 9 enfants. Joe, l'aîné, va sur ses 25 ans. Ted, le petit dernier, a 9 ans. Ils prennent le bateau pour New York. Enfin, plusieurs bateaux différents. C'est plus prudent. Joseph ne voudrait pas voir sa famille décimée d'un coup s'il devait y avoir un accident. Les Kennedy repartent donc pour les États-Unis, sauf Joseph, qui reste en poste à Londres. Et Rosemary, qu'il a décidé de garder avec lui. La jeune femme a maintenant 21 ans. Et c'est vrai qu'elle est bien depuis qu'elle est à Londres. Elle semble avoir trouvé l'équilibre qui lui manquait auparavant. Mais ce n'est pas uniquement pour le bien-être de Rosemary que Joseph la garde en Europe. Il veut éviter qu'elle nuise à la renommée de la famille, ainsi qu'à l'épanouissement de ses frères et sœurs. Le patriarche a toujours créé l'émulation entre ses enfants. Il les incite sans cesse à être meilleurs les uns que les autres. Et Rosemary n'est pas à la hauteur. De Londres, Joseph écrit à sa femme. « Rosemary ne doit pas rentrer aux États-Unis. Elle ne doit pas vivre à la maison. C'est dans son intérêt et dans celui de tout le monde. » Mais la guerre se propage en Europe. Joseph Kennedy craint qu'elle ne soit bientôt aux portes de Londres. En juin 1940, il décide donc de renvoyer Rosemary auprès de sa mère. C'est à contre-cœur. Pour lui, le père qui trouvait bien de la tenir à l'écart de la famille, mais surtout pour elle, la fille qui se plaisait si bien à Londres. Toute son adolescence, Rosemary a été transbahutée d'une école à l'autre et ça l'a souvent traumatisée. Elle n'a plus envie de bouger, mais on ne lui laisse pas le choix. Le retour en famille est donc compliqué, d'autant que sa sœur cadette, Kathleen, semble avoir pris sa place. Et ce n'est pas juste une impression. La mère, Rose Kennedy, n'hésite pas à l'écrire. À cause du handicap de Marie, nous considérons désormais Kathleen comme l'aînée de nos filles. Très rapidement, Rosemary retrouve l'humeur maussade qu'elle avait avant Londres. Sa mère la juge capricieuse, colérique, parfois violente. Elle craint qu'elle finisse par devenir dangereuse, pour elle comme pour les autres. Rosemary vit pourtant la jeunesse dorée de la bourgeoisie de l'époque. Elle pratique la voile, le tennis et le badminton avec ses frères. Elle joue au bridge avec ses amis. Elle aime la mode, sortir, faire la fête. Un peu trop peut-être. Au fond, n'est-ce pas cela qui inquiète surtout ses parents? Ils ne parviennent pas à faire rentrer cette gamine dans le moule de la parfaite petite Kennedy. Et Rosemary s'en rend compte. Elle écrit à son père qu'elle ne veut pas le décevoir, qu'elle ferait n'importe quoi pour le rendre heureux. Mais elle est sans cesse partagée entre l'envie de plaire à ses parents et l'envie de vivre sa vie comme elle l'entend. Pour Rose et Joseph Kennedy, c'en est trop. Elle est très imprégnée de religion catholique. Lui est surtout soucieux de la renommée de la famille. Et tous deux craignent que dans ces folles sorties, Rosemary soit abusée, qu'il faille gérer une grossesse non désirée. Il ne s'agit pas qu'un scandale éclate. Alors ça suffit. Joseph Kennedy veut faire soigner sa fille. Il teste tout ce qui existe. Il passe d'un médecin à l'autre, en vain. À l'instant, il songe même à la faire entrer au couvent. Mais qu'est-ce que Rosemary irait faire dans un couvent? Mais qu'on la laisse tranquille. Elle pourrait être heureuse si son père n'avait l'obsession de la perfection. Car oui, vous avez bien entendu, c'est une véritable obsession pour lui. Le père Kennedy n'en démord pas. Il faut trouver une solution, quelle qu'elle soit. À l'automne 1941, Joseph prend une décision qui va s'avérer très lourde de conséquences. Il va faire lobotomiser Rosemary.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui dans l'heure H, je vous raconte l'histoire de Rosemary Kennedy, la fille cachée de la famille. Rosemary souffre d'un léger retard mental depuis l'enfance. Son père ne le supporte pas. Il craint que cela nuise à l'image de la famille, surtout à l'image de son fils, John, qui vise la présidence des États-Unis. Alors, espérant guérir Rosemary, son père décide de la faire lobotomiser. La lobotomisation, le mot a déjà des airs barbares. Alors que dire de l'opération? Aujourd'hui, le verbe lobotomiser a pris un sens figuré. Cela signifie rendre stupide, altérer l'intelligence. Et c'est effectivement bien de cela qu'il s'agit. La lobotomie est une opération du cerveau qui ne se pratique plus aujourd'hui. Et heureusement. Mais à l'époque, certains médecins sont persuadés que cette opération peut régler une série de pathologies mentales. Ces maladies, comme celle de Rosemary, seraient dues, pense-t-il, à un problème au niveau des lobes frontaux, la partie située à l'avant du cerveau. L'opération consiste donc à déconnecter les lobes frontaux afin qu'ils n'interagissent plus avec le reste du cerveau. Les premiers essais ont eu lieu à la fin du 19e siècle, dans un asile psychiatrique suisse. Aux États-Unis, la pratique de la lobotomie va se répandre après la Deuxième Guerre mondiale. On traite ainsi des personnes schizophrènes, paranoïaques, épileptiques ou simplement dépressives. Il n'y a pas encore de solution médicamenteuse. Les psychotropes n'existent pas. Les neuroleptiques ne seront inventés que dans les années 1950. Et il faut attendre 1963 pour que le premier anxiolytique, le Valium, soit mis sur le marché. À défaut de médicaments, la lobotomie apparaît comme une chirurgie porteuse d'espoir. Mais elle est d'emblée très contestée. Car si elle fait sans doute du bien à certains, elle peut occasionner de très très gros dégâts chez d'autres. Malgré les mises en garde de l'Association des médecins américains, l'opération est en vogue. Rien que durant l'année 1951, on estime que près de 20 000 lobotomies sont pratiquées aux États-Unis. Cette chirurgie n'a pourtant rien d'anodin. Je vous explique, mais accrochez-vous. Il existe plusieurs méthodes. En hôpital, l'opération consiste à forer le crâne via chacune des deux tempes. On introduit ensuite un scalpel dans les trous pour aller sectionner les liaisons nerveuses des lobes frontaux. Ça, c'est la méthode classique. Mais aux États-Unis, le docteur Freeman a mis au point une méthode plus simple, plus rapide. Il soulève la paupière supérieure, puis, à l'aide d'un pic à glace, il perfore l'orbite de l'œil pour accéder directement au cerveau. Il a bien quelques hémorragies, quelques infections, quelques cas qui tournent mal, mais peu importe. Le procédé est perfectionné par un neurochirurgien portugais et cela lui vaut le prix Nobel de médecine. Nombre de ses patients sont pourtant ressortis lourdement handicapés de l'opération. Mais de nouveau, peu importe. Peu importe parce que Joseph Kennedy veut absolument trouver une solution pour sa fille. Et il n'y a plus de temps à perdre. Rosemary a 23 ans, le risque est trop grand qu'elle devienne une véritable menace pour les Kennedy. Si un scandale éclatait, la famille pourrait dire adieu à ses rêves de Maison Blanche. Alors, eh bien alors, il faut régler le problème Rosemary. Définitivement. Joseph sait que Rose, son épouse, désapprouve le projet de lobotomie. Il préfère donc ne pas lui en parler. Il prend la décision seul, dans le plus grand secret. Après tout, c'est lui le patriarche. Joseph fait appel à ce grand spécialiste américain de l'époque, le docteur Freeman, Walter Jackson Freeman. Il est neurologue. Comme il n'est pas formé à la chirurgie, il fait appel à un confrère pour le seconder, le docteur James Watts. Un demi-siècle plus tard, à la fin de sa vie, Watts racontera comment s'est déroulée la lobotomie de Rosemary Kennedy. L'anesthésie n'était que partielle, car la patiente devait rester consciente. Après avoir foré deux trous dans la boîte crânienne, le chirurgien a introduit les scalpels pour sectionner les liaisons nerveuses. Pendant ce temps, le neurologue parlait à Rosemary. Il lui posait des questions simples, la faisait chanter ou réciter le Notre Père. Tant qu'elle était capable de répondre à ses sollicitations, l'opération pouvait se poursuivre. Quand elle devenait incohérente, c'est qu'il était temps d'arrêter. Il paraît que l'infirmière chargée d'assister les médecins a démissionné peu après l'intervention, tant elle était traumatisée. Car Rosemary Kennedy est restée incohérente à jamais. Après la lobotomie, cette belle jeune femme de 23 ans avait l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Pour les Kennedy, c'est la descente aux enfers. Ils avaient honte du léger retard mental de leur fille. Alors, imaginez ce qu'ils ressentent en la découvrant maintenant lourdement handicapée. Et par leur faute, en plus. Jamais au grand jamais, le mot « lobotomie » ne sera prononcé. Quand Rose Fitzgerald Kennedy écrit ses mémoires, au milieu des années 70, après la mort de son mari et de ses fils, elle consent à évoquer une certaine neurochirurgie. Mais le plus souvent, elle préfère parler d'un accident dont Rosemary ne se serait pas rétablie. Plus c'est flou, plus c'est vague, et mieux c'est. En réalité, vous l'avez compris, la lobotomie a complètement échoué. Et à partir de ce jour-là, les Kennedy vont effacer Rosemary de leur vie. Les premières années, ce n'est pas trop compliqué. On n'en parle plus. Elle n'existe plus. Mais après-guerre, les médias commencent à s'intéresser à la famille. C'est ce que le patriarche a toujours voulu. Comme Joe est mort à la guerre, Joseph a reporté ses ambitions présidentielles sur son frère cadet, John. Oh, il est moins sérieux que l'aîné. On lui connaît de très nombreuses conquêtes féminines. Il a aussi de gros problèmes de santé. Mais qu'à cela ne tienne. Il est dit qu'un Kennedy sera le premier président catholique des États-Unis. En 1946, John est élu à la Chambre. Il n'a pas encore 30 ans. En 1952, le voilà au Sénat. L'année suivante, en 1953, il fait un somptueux mariage. Et puisqu'il vise la présidence des États-Unis, il lui faut jouer avec les médias pour gagner en capital sympathie. Et on connaît la suite. L'élection en novembre 1960, l'investiture en janvier 61 et l'assassinat en novembre 1963. Durant ces années-là, les Kennedy sont partout. Alors, bien sûr, les reporters grattent un peu, notamment du côté de la famille, d'autant qu'elle se présente comme un véritable clan uni derrière le président. Si cette famille est si unie, comment expliquer qu'il y manque quelqu'un ? Les données de l'état civil sont pourtant claires. Rose et Joseph Kennedy ont eu 9 enfants. On sait que Joe a été tué pendant la guerre. On sait aussi que Kathleen a été victime d'un accident d'avion. Mais 9 moins 2, ça fait 7. Or, on ne voit jamais que 6 Kennedy. Autour de John, il y a ses deux frères, Robert et Edward, que l'on surnomme Bobby et Teddy, et ses trois sœurs, Eunice, Patricia et Jean. Alors faites le compte. John, ses deux frères, ses trois sœurs, ça fait 6. Alors qui manque-t-il ? En juin 1953, alors que JFK vient d'être élu sénateur et qu'il prépare son mariage, le Saturday Evening Post consacre un article à ce jeune homme prometteur. Le Klan est évidemment évoqué en long et en large. Le journaliste sait que les Kennedy ont eu une petite fille juste après John, une petite Rosemary, née en 1918. Elle n'est pas morte en bas âge puisque le New York Times a publié la photo de son retour de Londres en juin 1940. Elle n'est d'ailleurs pas morte du tout puisque les documents officiels indiquent une date de naissance, mais pas de date de décès. Alors que la carrière politique de John s'envole, Rosemary doit avoir 34 ans, mais elle est invisible. On ne la voit sur aucune photo. Personne ne l'évoque jamais. Le journaliste pose-t-il directement la question au Kennedy ? Enquête-t-il sur le sujet ? Ignore-t-il tout de Rosemary Kennedy ou sait-il des choses qu'on lui interdit de révéler ? Dans son long article, il ne consacre que 4 petits mots à la sœur cadette de JFK. Institutrice dans le Wisconsin. Le mystère est tel qu'en 1956, la Maison-Blanche cherche à le percer. Le FBI est prié de mettre ses plus fins limiers sur l'affaire. Mais ils font chou blanc. Ils n'obtiennent qu'une seule information. Rosemary Kennedy souffre d'une maladie mentale. Oui, mais où est-elle ? Personne n'est fichu de la localiser. Edgar Hoover, le patron du FBI, fulmine. Une Kennedy, quand même, c'est pas une aiguille dans une botte de foin. Vous devriez lire davantage la presse, Mr. Hoover. Souvenez-vous de cette petite phrase, institutrice dans le Wisconsin. Bon, certes, la formulation sibylline laisse entendre que la jeune femme aurait choisi une vie simple, à l'abri des projecteurs. Alors que Rosemary n'a rien choisi du tout. Mais elle est bien dans le Wisconsin. Après l'échec de la lobotomie, Joseph Kennedy avait d'abord placé sa fille à Craig House, un hôpital psychiatrique chic et cher, au nord de New York. Mais plus la renommée de la famille grandit, plus il craint que son secret soit découvert. À New York, tout finit toujours par se savoir. Après l'élection de John à la Chambre, le patriarche préfère donc éloigner Rosemary. Il trouve un établissement à 1500 km de là, dans une petite ville du Wisconsin. L'école Saint-Coletta accueille des adultes handicapés mentaux. Joseph y fait construire pour sa fille un petit pavillon en briques rouges, le Kennedy Cottage. Rosemary a 29 ans. C'est là qu'elle passera les 57 années qui lui restent à vivre. C'est là qu'elle apprendra l'élection de son frère à la présidence, par la télé. C'est là aussi qu'elle apprendra son assassinat. Après avoir réglé les questions administratives et financières, Joseph Kennedy ne remettra jamais les pieds à Saint-Coletta. Il ne reverra jamais sa fille, rayée de sa vie. Rose fera pareil. Et les enfants, petits et grands, apprirent à ne jamais poser de questions sur ce sujet tabou. Le plus jeune, Teddy, croyait vraiment que sa sœur était institutrice dans le Wisconsin. Au vu de son handicap lourd, il paraît évident que Rosemary ne pouvait plus vivre en famille. Mais fallait-il l'abandonner pour autant ? L'attitude des Kennedy peut être difficile à comprendre aujourd'hui. Mais dans l'Amérique de l'époque, alors que les pathologies mentales demeurent encore mystérieuses, les familles préfèrent garder dans l'ombre ces enfants de la honte. Surtout quand la famille s'appelle Kennedy et vise la présidence des États-Unis. Quelques semaines après l'arrivée de John à la Maison-Blanche, l'affaire remonte pourtant à la surface. Le bulletin de l'Association nationale pour les enfants handicapés révèle que le nouveau président a une sœur attardée mentale qui vit en institution. La famille Kennedy exige un démenti. Mais Joseph sait que son secret est une bombe à retardement. Alors il préfère lâcher un peu de lest. Il explique à un journaliste que sa fille a été victime d'une méningite qui lui a laissé quelques séquelles. C'est une version acceptable, ça, non ? Puis il ajoute « J'ignore ce qui fait que 8 enfants soient aussi brillants qu'une pièce de 1 dollar et qu'une autre soit aussi terne. C'est la main de Dieu, je suppose. » La main de Dieu, le mauvais coup du destin. C'est bien pratique, tout ça. Et ça permet de ne jamais évoquer la lobotomie. Le choix du patriarche qui a définitivement scellé le destin tragique de sa fille. Après la mort de Joseph Kennedy en 1969, Rose revit quelquefois sa fille. Rosemary revenait en famille une ou deux fois par an, souvent pour les fêtes. Un jour qu'elle était assise sur une chaise, immobile, le regard fixe et perdu, on entendit sa mère murmurer « Mon Dieu, Rosie, qu'est-ce que nous t'avons fait ?» Rosemary Kennedy est morte en 2005, à l'âge de 86 ans. Mais dans sa tête, c'était toujours une petite fille de 3 ans. Comprenait-elle seulement qui était la belle jeune femme dont la photo avait été accrochée au mur de sa chambre ? Une demoisette en robe de tulle blanc pailletée d'argent qui attendait d'être présentée au roi d'Angleterre. Mais cette demoiselle n'était pas assez bien pour son père. Ce n'était pas l'enfant parfaite qu'exigeait Joseph Kennedy. Aujourd'hui, à la relecture des dossiers médicaux, les spécialistes estiment que le handicap de la petite Rosemary devait être assez léger. Pas de quoi tenter une lobotomie, en tout cas. Certains estiment même que la petite était simplement dyslexique. Mais on ne diagnostiquait pas les enfants dyslexiques à l'époque. Les regrets ne servent à rien, c'est vrai. Mais le père Kennedy n'en eut jamais de regrets. À la fin de sa vie, dans une lettre à la responsable de l'institut où réside sa fille, il se dit heureux d'avoir trouvé une solution au problème de Rosemary. Et il ajoute que c'était essentiel pour permettre à tous les Kennedy de mener leur vie. Il fallait faire disparaître Rosemary pour qu'un Kennedy devienne président des États-Unis. Voilà donc pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Christine Mazuy.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.